Donc c'est un immeuble de 2 étages avec 4-5 appartements. Des années 30-40, on est au cœur d'Elbeuf, tout près de la place principale. Au fond de la rue, une petite cheminée, une ancienne usine. Et nous allons voir Monsieur Pierre Tenvin, 70 ans.
Retour sur enquête, ethnographie d'une ville ouvrière, la mémoire en morceaux. Jean-François Lahaye, Numa Murat, Jean-Philippe Navarre.
La part d'Angélique vous a appelé il y a quelques jours.
C'est madame qui a appelé.
D'accord.
Ah, peut-être, oui.
Parce que vous habitiez aux Écamaux.
Oui.
Et voilà, on voulait discuter un peu avec vous de souvenirs. De.
30 ans après, nous retournons à Elbeuf. Face à la massification de la pauvreté, on se rend compte que beaucoup de nos notes de l'époque s'appliquent au récit que l'on va entendre.
C'est vieux, ça. C'est vieux,
ouais. Merci. Merci. Yaya, garde ton ordi.
Bah là, mais je peux pas bouger les scènes.
Vous étiez dans les pavillons ou vous étiez où?
Je suis arrivé au roi en 74.
À l'ouverture, alors
ouais. Bah déjà, comme on est arrivé, c'était pas tellement grand. Hein. J'avais déjà. Qui c'est que j'avais comme au début? Nathalie, Stéphane.
En 2017.
C'est pas comme je suis arrivé. Jusqu'à Syrie. J'en avais 4 et après, bon, bah, il y en a eu 7. 8 après avec sa fille.
C'était pour la crème.
Vous êtes rentré en 74 dans le bâtiment A.
Et puis
vous êtes parti du pavillon en
80.
80.
Ah bah on était les derniers, il n'y en avait pas l'autre. C'était un gang, pour ainsi dire. Alors ils en avaient marre, les HLM, tout était détérioré, la plupart ils payaient pas le loyer. Alors ils ont dit, bon ben, c'est les HLM qui l'ont fait fermer. Nous on avait entendu, ça devait être repris pour faire la caserne de pompiers, et après les CRS. Ça n'a jamais été fait. Hein. Ils ont tout réhabilité. J'ai un jardinier qui est avec moi, qui y habite. Puis ils ont fait les pavillons.
Là, j'ai une photographie. Vous reconnaissez quelqu'un sur la photographie?
Je prends ma loupe parce que je vois pas pour votre photo.
Sonia.
Là, si je vous dis que c'est Yo-Yo.
Ah oui, peut-être. Avant qu'il ait son accident. Mais je m'en rappelle pas trop. Hein.
Pas trop des gens.
C'est plutôt ma sœur. Au moment que ma sœur est arrivée, moi, je suis partie.
Ah bon?
Là, la photo, il n'y a pas grand monde. Hein. Moi, je croyais que c'était vous allez me montrer des immeubles avec tous les gens.
J'ai pas d'autres photos.
Il y a beaucoup consulté, beaucoup de parties. Ça, c'est ma nièce. Elle habite plus là maintenant.
Sandrine.
Oui.
Elle habite où?
En face de chez Dalila. Bon, lui, Dani, il est en prison, là, son fils. Son fils Sébastien, il est aussi. Ça, je connais pas. Karim, il est décédé.
Oui, pareil, oui.
Il a pris une balle accidentellement. Ouais.
30 ans après,
ah ouais, bah lui,
c'est la stupeur. À la cité des Écamaux, beaucoup d'histoires de deuil. La cité est orpheline.
Lui aussi, c'est pas un coup de couteau.
Le deuil appartient au seul enclos de la vie privée.
Bah, tiens, comme ça, il a été mangé.
Mais que fait le sociologue ici?
Il y en a beaucoup de décédés aussi, hein, Soleil.
Même annoncé par la maladie, la mort surgit encore et encore par la violence des conditions de vie.
Et puis son grand frère, je sais plus comment il s'appelle, il s'est pendu. Oh oui, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'étais à l'immeuble B. Mais après, quand je suis parti, ça a été relogé. Sinon, au début, c'était bien quand même. Très bien, hein. Les immeubles étaient tout neufs là-bas.
On vous a dit quoi? Il faut partir?
Pierrot.
Déjà, il nous avait prévenus, hein, et puis on avait il nous préparait une maison. Et une fois que la maison a été finie, on a déménagé.
Vu de haut, la cité ressemble à des milliers d'autres. 4 pâtés de béton, comprenant 4 étages, 80 logements, 300 personnes qui défient la pente. Seules notes de couleur sur le béton, quelques carrés de jardin gagnés sur la forêt qui livrent chaque année leur lot de patates, de tomates et de poireaux. Vu de près, la cité expose les symptômes classiques de ce genre de construction. Les portes en allumettes des caves et des garages ont volé en éclats. le gardien a abandonné les réparations urgentes et le nettoyage au profit des dominos, la chaussée défoncée depuis 4 ans n'intéresse plus les services de l'équipement.
En 30 ans, j'ai dû monter 2 fois.
Paul Fort.
C'est vrai ?
Ouais. Ah, le cafard.
C'est vrai ?
Ah ouais, ça a changé. Il n'y a que la côte qui n'a pas changé.
Donc là, on tourne à gauche et on monte dans la cave des Écamots.
Ouais, c'est ça, ouais.
La cité des Écamots.
La cité, c'est en haut. Ouais, ça n'a pas changé, hein. Il n'y a que les bâtiments qui ont changé. Et le premier immeuble, il donnait là. L'immeuble D, là. Je sais pas si la Bernadette habitait dans l'immeuble D, là. Eh ben oui, j'ai reconstruit de la même façon. Hein. Ben, là où il y a le trou, il y avait un immeuble.
Là. Ici, là.
Ouais, exactement. Ouais. Là-bas, c'est l'immeuble que vous travaillez quand vous étiez éducateur. C'était l'immeuble A, là-bas.
Et toi, t'habitais où ?
Dans le B, là.
Je suis née en 75, 85.
Oui. Pascal.
J'ai que 10 ans. Alors, moi, les Écamots, c'est troublant pour moi. C'est un grand vide, quoi. Je sais que nous, on avait une porte en ferraille. Je me rappelle, on avait une porte toute en ferraille, elle était incassable. On avait Micheline Neveu, qui était la voisine, là, plein de bébêtes qui ont collé à tout le monde. Je me retrouvais la boule à Z, je me rappelle.
Je te montre une photo, puis tu me dis qui tu reconnais.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, en effet. Hein. Donc, mon oncle, petit Marie-Joseph. Oh. Là, Wilfried. Wilfried de Varennes, non ? Alors, c'est celui-là avec qui j'ai 2 enfants. Au jour d'aujourd'hui où j'ai les problèmes de justice.
Ah oui, c'est avec lui.
Oui.
Il est mignon sur la photographie.
Très, très mignon, c'est vrai. Ouais. Alors, ça, c'est le mari à Micheline, neveu.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre Goubert. C'est ça, Goubert,
c'est
ça,
hein.
Oui. Beau toit.
Beau toit, oui. On m'a dit. Oh, c'est marrant, j'ai des têtes qui me disent quelque chose. Ah, la Ouamedzou, bah voilà. Ah, la Ouamedzou. Donc là, on a, à mon avis, sa fille, ça doit être. Ça doit être Naïma.
Fadela.
Fadela.
Ouais.
Voilà, donc
et
là,
lui,
ça.
Lui, tu le vois encore en ce moment.
Il est en Algérie.
Oui, là, il est parti en vacances en Algérie, mais là, actuellement, il vit toujours dans le département de 76-500 Elbeuf. Par contre, là, j'ai le doute de. Je ne sais pas si ça serait Angélique. Hein.
C'est Angélique.
Voilà, oui, donc là, à mon avis, caché, peut-être moi. Là, yo-yo, oui.
Ouais.
À l'époque, il marchait. Ouais, c'est. Mais je vois pas, ça se trouve. Ah, c'est vraiment les Écamots. Hein. Oh, mais par contre,
Jean-Pierre,
malheureusement, il a eu le cancer de. Du tabac, c'est ça ?
Non, cirrhose du foie.
Ah, la cirrhose du foie, oui, par l'alcool, mais forcément, ça paraît un peu logique.
Ah, ouais, il était jeune aussi, lui.
Sonia.
Francine, on sait pas. Elle avait un autre fils qui s'appelait Ludovic aussi.
Oui,
je sais pas où c'est qu'ils sont.
J'ai oublié. Ah, oui, Ludovic.
Oh, le man Jean-Pierre, oui, il est décédé, lui. C'était un copain à mon frère, il a pas eu de chance, il était au. Comment ça s'appelle, les Emmaüs ?
Chez Emmaüs.
Puis après, ils l'ont envoyé, je sais plus où, dans une autre ville. Et juste le soir de Noël, il a traversé, il a pargasé, il s'est fait creuser par un camion. Mais lui, il y a sa femme, hein, qui est toujours vivante. Ouais, elle est décédée, c'est ma sœur, là.
Sylvie ?
Ouais. Taine Vampierre, bah oui. Eh ben, ils habitent plus là, oui. Mais là, franchement, les gens, je connais pas. Bah, je crois que même M. Botois, il est décédé, je crois.
Oui, je crois, oui.
On puis sa dit... femme, je ne sais pas ce qu'elle est.
Comment ça s'appelle, les immeubles derrière
ah,
le Puchon ?
Ah, Grandin.
Voilà. Elle est là.
Ah, on me l'avait dit, oui. Ouais, Grandin.
Dans un très bel appartement, très bien...
Ouais, bah, elle a l'air d'en être bien sortie,
oui,
tant mieux pour elle.
Mais
les autres, je ne vois pas du tout. Déjà, tous ces petits-enfants-là, maintenant, ils doivent être très grands.
Ils ont 35, 40 ans.
Je ne sais même pas quel immeuble qu'ils étaient. Moi, j'étais à l'immeuble B. Juste en face, Madame Paul Fort.
Vous viviez à combien ?
Dans l'appartement chez ma mère.
Oui. Paul Fort.
On était 1, 2, 3, 4. Parce que j'avais des frères qui avaient divorcé, on était 6. J'avais 2 grands frères de 30 ans qui étaient revenus chez ma mère. Et puis nous qui étaient gamins. Parce que nous, on suit de 13 mois de différence. Moi, j'avais 11 ans, mon frère avait 12 ans, l'autre avait 13 ans. Et j'avais un frère de 30 ans qui était revenu. J'avais un frère qui habitait là avec Martine Pajot, Bernard Solem. Il avait divorcé aussi. Il est revenu chez ma mère.
Et vous êtes. Il y avait combien de chambres ?
Il y avait 2 chambres. Avec mes frères, on dormait à 3 dans le même lit. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai vu le soir manger du café au lait, pas se tromper. Hein. Ils savent les gens qui sont venus ici. Hein. Ah ouais, c'est, bah, c'était des gens pauvres. Hein. C'était la misère ici. Hein.
Dans mes souvenirs de mes repas alimentation chez ma mère, quand il n'y avait rien à manger, bon, on trouvait toujours le pain. C'était vraiment quelque chose où on pouvait manger, on avait l'estomac plein.
Bernadette et Pascal.
Ça me suffisait. Ah bah les patates, ça c'est sûr. Hein. C'est moi qui faisais les épluchures de patates. C'était beaucoup les frites, quoi. 25 kilos de pommes de terre, en une heure de temps, je vous les fais, hein, parce qu'on les mangeait. Ah bah oui, mais quand il n'y avait que ça à manger, des frites sans viande, puis on était une famille nombreuse, puis il y avait beaucoup d'enfants.
C'était combien de personnes, Bernadette?
Bah, Muriel, c'est gosse.
Un petit peu, maman.
Non, mais combien
quand même,
au total vous étiez autour de la table?
Richard était avec nous, non? Je ne me rappelle plus.
Oh, oui, oui, je crois. Oui, il y avait Richard aussi.
Muriel, elle avait...
Bon, on va dire 15, on était bien 15.
Ouais,
bon, une bonne quinzaine.
Les enfants, ils sont tous partis.
Pierrot.
Vous pouvez nous dire,
il n'y en a
ça.
Plus qu'un. Je ne me rappelle plus, hein. Il y en a tellement, on perd la notion.
Vous n'avez pas de nouvelles de temps en temps?
Ah, un peu plus, on ne veut pas. Bah, on ne se parle pas beaucoup avec les...
Vous êtes en...
lycée. Bah, je fais mon CAP fleuriste.
Oui.
Après, bah, je cherche du travail, quoi.
Et donc, au-dessus de vous?
Au-dessus de moi, je sais pas trop en fait, parce qu'on se parle pas trop alors.
Si la mémoire est en morceaux, il enquête tout autant.
Le deuxième, lui, bon, bah, il travaille.
C'est que ses éléments constitutifs le sont. Les habitats successifs, les segments d'emploi,
l'autre d'après,
les couples qui se font et se défont.
On le voit de temps en temps. Mais...
Et comme il n'y a pas d'héritage, on ne se retrouvera même pas chez le notaire.
Après, c'est Cyril. Qui est à Côte-Bec. On lui non plus, on ne fréquente pas, mais il travaille. Il y a son frère qui travaille avec, Xavier. Après, c'est Valérie. Elle travaille chez les personnes âgées.
On n'a plus de contact.
Par un, encore, on se voit de temps en temps.
Mais le garçon, la fille, un peu plus âgé que vous, vous savez?
Non. Non, c'est fâché, quoi.
Avec la personne qu'elle est, c'est tellement pas... Bon, mieux pas le voir.
Mm-hmm. Elle s'appelle comment?
Bah, elle s'appelle tout le temps Tannevan.
Non, mais son prénom?
Vanessa.
Et elle a quel âge?
J'ai vu... Ah non, c'est ça, Vanessa.
Elle est née en combien?
Enfin, t'as le livret de famille, là, tu sors, tu vas voir. Son bonhomme, c'est un feignant. Alors moi, pas beaucoup ça. C'est elle qui travaille et puis l'autre qui se repose. Et la plus vieille, elle est au parc Saint-Cyr aussi. Et puis son bonhomme, c'est pareil. Alors là, ils sont tous les deux à rien faire. Comme ils vivent du RMI et des allocations. Alors ça...
Ça vous plaît pas?
Ah non, bah, j'ai toujours travaillé moi. Alors.
Et où c'est que vous alliez à l'école à cette époque-là?
École Racine.
Oui.
Elle est en bas de la côte?
Oui.
Voilà.
Après, c'est le collège Mauvalo.
Pascal.
Et comment ça se passait à l'école pour toi?
Zéro.
C'est-à-dire?
Je lire et écrire, hein, quand même.
Et compter.
Et puis j'aime lire. Hein, aujourd'hui, j'aime lire. Et heureusement, je comprends ce que je lis quand même. J'ai arrêté. J'ai arrêté à la sixième. Parce qu'après, j'étais enceinte. Donc. J'ai un peu du mal à reconnaître un peu tous les gosses, moi.
Les enfants placés.
Bon, là, il y a Safia.
C'est l'intimité jetée dehors. Si son conjoint du moment a de l'argent, alors Pascal fait des pieds et des mains pour réclamer ses enfants.
Et là, j'ai le doute. Viens m'aider, maman. C'est un de mes gosses, c'est sûr.
S'il en est dépourvu, le signalement ne se fera pas attendre.
On va dire Yacine.
Et ses enfants repartiront en famille d'accueil.
Provisoirement, en attendant.
Ça peut pas être Jason, impossible.
C'est Yacine.
C'est Yacine. Là, c'est mon premier fils, Jason, qui a 19 ans aujourd'hui. Il est à Blois, chez son papa.
Il fait quoi?
Il m'a abandonné. Je le vois pas non plus. Parce que c'est un gosse qui est arrivé, malheureusement,
quand on a son père qui, à 15 ans, nous ramène dans les bars et tout ça, je buvais à 15 ans. J'étais enceinte, malheureusement. Donc il était trop tard. Pour lui, je suis pas sa mère, je suis rien, quoi. Bon. En fait, moi, je l'ai eu jusqu'à 18 mois. Maman, prends pom-pom, s'il te plaît. Et comme mon père, je vous disais, mangeait les allocations familiales. Donc forcément, moi, je savais pas comment faire. Mais comme il avait son père, le petit, j'ai dit, je vais bien faire, je vais le donner à son papa.
Et ça, c'était après, parce que Bernadette, quand on venait, nous, au début des années 80, il n'y avait pas d'alcool à la maison.
Non, ça allait, ça après.
Parce que Richard, s'il voulait boire son coup, tu le foutais dehors, il allait boire sa bière ailleurs. Ce que tu dis sur les frites et tout ça, c'est vrai, mais il n'y avait pas d'alcool chez toi.
C'est vrai, il se rappelle.
Oui, je me rappelle.
C'est après.
On venait, il était toujours là.
Il s'occupait des enfants. Il était calme, il était sage, quoi. Il essayait.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, on l'a connu très...
Il partait à droite, gauche, il allait en ville, il revenait bourré dans son mobilette.
Après,
chez les voisins, il allait boire chez les voisins, il faisait les bricoles chez les voisins. Même Paul Fort, ça. Même Paul Fort.
Ça a commencé à parler.
Après.
Toi, t'es arrivé à quel âge ici?
11 ans. Je me rappelle, la route n'était pas quand il n'y avait pas de bacanane.
Paul Fort.
À la Brouette, on a fait tout à la Brouette. Je voyais tous les gens ici, des abattoirs, à la Brouette, ils n'avaient pas de véhicule.
Pour transporter les meubles,
ouais, les meubles, tout ça.
Les affaires.
Ouais.
Et vous pensiez réellement vivre là tout le temps?
Ah ouais, franchement, même ma mère, elle est tombée malade quand elle est partie de là, après. Elle est décédée 3 ans après, comme beaucoup de personnes. C'était une grande famille, les voisins, ici. Quand il n'y avait pas de pain, ils allaient frapper chez l'autre. Il y avait une bagarre, ils appelaient la police est arrivée. Après, ils étaient tous contre la police. C'était une grande famille, les Écabos, on a été. Les gens s'aimaient bien ici. Ouais, s'engueuler, mais le lendemain, ils prenaient l'apéro ensemble. Ma mère n'avait pas de pain, elle disait va chez la voisine, va demander s'il n'y a pas des œufs. Ils se dépannaient entre eux. Ça se fait plus aujourd'hui, ça. Ça se fait plus. Tout le monde s'aidait ici. Quand on habitait ici, et le bœuf, on n'y allait jamais. Je ne connaissais même pas le bœuf. Je ne voulais même pas connaître. C'est une fois que je suis descendu de le bœuf que j'ai commencé à faire des conneries. Ça n'a pas changé, hein. C'est vrai, ça me choque de voir ça. Et ça se voit que c'est d'autres personnes qui habitent là.
À quoi tu vois que c'est d'autres personnes?
C'est plus propre, c'est mieux entretenu. C'est pas nous qui avons foutu la mer, nous on l'a foutu à la fin. C'était une cité fantôme à la fin. Parce qu'ils ont muré des immeubles. Le premier, ils ont muré, le A, il y avait encore des gens là. C'est là qu'on avait commencé à démurer et puis à rentrer dans... à foutre le bordel, mais au début on n'a pas foutu le bordel. Hein.
Et tu te souviens quand ta mère a reçu les lettres, il va falloir partir
Oui, ça je me souviens, expulsé à pleurer, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu partir. Hein.
Qu'est-ce qu'elle disait ta mère?
Elle ne voulait pas partir, elle ne savait pas où qu'elle allait se retrouver, mais personne ne voulait quitter cet endroit-là en plus, il est beau cet endroit-là. Parce qu'ici il y avait beaucoup de gens des cas sociaux, quoi. Ma mère, elle habitait au Grand Hôtel avant, les autres c'était les abattoirs, c'était la Cour des Marins qui nous ont mis là, pour enlever un peu sur la population d'Elbeuf ce qui les dérangeait, les ont mis là. Puis après, ils ont vu qu'ils ont fait peut-être une erreur, et ils ont tout cassé au bout de 9 ans.
La ville offre pourtant un support visuel aux émotions souterraines qui circulent entre ceux qui l'habitent. Et pour les plus pauvres, elle est une sorte d'institution. Chacun a son point de perspective, mais ils ont en commun un noyau. La pauvreté économique, le logement insalubre, la cité de transit.
Mon idée, les gens qui y ont habité, c'est des gens qui étaient habitants en vieilles maisons qui ont été démontées.
Sonia.
Et tout ça, ça a dû se retrouver ensemble, et puis tout le monde se connaissait. Vous savez, 4 immeubles, tout le monde se connaît, hein. Puis 6 pavillons. C'est trop petit et puis trop fermé, quoi. Oui. Monsieur Dany, vous y allez. Après, il va vous dire plus de choses. Il a resté bien longtemps, moins 10 ans après moi. Lui, il a vécu vraiment la fin, quoi.
Oui.
Parce qu'il a été relogé, lui.
Oui, mais...
Moi, je suis parti de moi-même.
Il a une mémoire plus... Il cherche...
Non, avec tous les malheurs qu'il a eus avec ses fils, tout ça, il n'est pas trop... Mais il doit se rappeler un peu de trucs, quand même, hein. Ma sœur, elle a été relogée route de Rouen. Bah, il a dû vous le dire, Dani.
Il m'a raconté un tout petit peu hier, mais brièvement, l'accident de votre sœur.
Oui, dans les escaliers. Dans... Mais même, elle avait un cancer de l'utérus, même avant son accident. Oui, tout ça, ça a dû un peu le... Puis il sort pas, il y voit pas beaucoup, alors...
Dani.
Dani nous attend, il est là à la fenêtre, fenêtre ouverte.
Dani Sucré.
Devant la télévision. Bonjour.
Ouais,
bonjour. Ouais, on vient de chez Sonia.
Ouais.
Et elle nous a parlé de toi, évidemment. Bonjour.
Bonjour.
Ma fille. Ça, c'est la photo, je la montre à votre fille. C'est une des photos dans un appartement aux Équirmaux. En 82-83
Elle était pas née, alors.
Pourquoi vous avez mis Sucré Sylvie décédée?
Sucré Sylvie, ma femme, elle est décédée. C'est D, tout ça. Elle s'appelait D, ma femme. Moi, j'ai vécu 36 ans avec elle sans me marier. Hein.
Ah, d'accord.
Non, ah ouais, puisque j'ai eu 5 enfants avec elle.
Voilà, et donc, les enfants, ils portent le nom du père ou de la mère?
De la mère.
La mère. Et puis, il doit boire en deuxième.
Voilà.
Donc, moi, j'ai laissé la priorité à ma femme de reconnaître avant moi. C'est normal. C'est elle qui fait le travail, hein, c'est pas moi, là.
Pourquoi vous avez pris tout ce temps-là à parler de l'ancienne, je sais pas comment ça s'appelait ça, des Écamos, tout ce temps-là à venir après?
La cité des Écamos, elle n'existe plus depuis longtemps, mais nous, on était jeunes, comme votre père, et quand on venait voir des familles, ou quand Jean-François était éducateur, et après, bon, bah, nous, on est partis d'ici, maintenant, on est sur Paris, on s'est dit, bon, bah, ça serait bien de savoir qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que les gens y sont devenus, parce que sinon, les choses, elles s'oublient. Et finalement, quand on rencontre les gens aujourd'hui, là, on voit que c'est des souvenirs qui restent importants pour eux. Et donc, pourquoi laisser ça être oublié? Et pourquoi pas témoigner, quoi, de cette époque? Et aussi des difficultés que les gens ont connues quand ils ont été virés de là-haut.
À là-haut, j'en ai pas beaucoup connu qui travaillaient au Chicago. Les grands soleils, moi, ils travaillaient. Bernard et Jean-Claude, ils travaillaient.
Dans quoi ils travaillaient?
Je travaillais en fonderie à Pontalu et à Côte-Bec, là. Je travaillais avec eux, moi, comme des bouleurs. Bernard, Jean-Pierre, lui, je crois, il est parti dans le sud aussi, lui. Faut pas qu'ils ont perdu leur mère, eux, les deux filles sont morts après. Ils sont morts tous les deux.
Hein, ça, de, c'est... de quoi ils sont morts?
Ben, je crois que c'est les cancers, hein. Des trucs comme ça. Moi, on sait que moi, les gens qui travaillaient, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Moi, à part moi, j'en ai connu peu. Pardon. J'en ai connu un qui travaillait, c'est Pierrot. Pierre, t'es bien, moi, je suis Pierrot, parce que j'appelle toujours Pierrot. Lui travaillait beaucoup en déplacement à Paris.
Oh là, c'est vieux, ça, c'est en 53.
Pierrot.
J'avais 13 ans et demi. J'ai fait de l'apprentissage en mécanique. Après, j'ai fait mon armée. En revenant, j'étais chauffeur poids lourd. Puis après, bon, je suis arrivé ici en 73. Et après, j'ai travaillé chez Gilbert. Crayon Gilbert.
Ah oui.
J'étais cuiseur. Je cuisais la mine de crayon. Il y a une trépileuse qui fabrique les mines. On les mettait dans des creusets avec du graphite dessus, puis on les passait au four. Et puis.
Et ça cuit.
Et puis après, nous, on les dépotait, puis on les mettait dans de l'huile exprès pour. Selon la mine qu'on avait. C'était ça le métier.
Des mines de crayon.
Et la mine de crayon. J'étais mineur.
Mineur de crayon.
Et puis j'étais aussi noir qu'un mineur.
Ah oui, vous aviez
des. Partout, hein.
Ah oui.
Ça rentrait partout.
Parce que la poussière.
La poussière, tout ça.
Et combien d'années dans les mines de crayon?
Oh, je suis resté 5 ans. C'est...
Ça vous plaisait?
Bon, il fallait travailler, c'est surtout ça. Travailler pour élever les enfants. Puis après, j'ai repris mon métier de peintre, j'ai fait de la peinture et puis les sols aussi, en résine. Et ben, puis après, je suis arrivé à la retraite.
Quand vous avez quitté les Écamos, vous êtes...
Je travaillais encore.
Encore
Je travaillais, je faisais du les sols.
Encore les sols, dans une entreprise
à Paris.
Officiellement, à Paris.
Ouais.
Donc vous étiez tout le temps sur la route, quoi.
Ah bah, je partais le matin à 4h et je rentrais le soir à 9h. Le samedi et le dimanche, comme j'avais un samedi, le dimanche était fait pour me reposer. Hein. De 4h à 9h le soir, que je rentrais, le dimanche était repos.
ceux qui travaillaient là-haut, ils étaient un peu mieux que les autres, quoi, parce qu'ils avaient quand même un salaire tous les mois.
Il y avait quand même un revenu.
Comment ça se passait avec ceux qui ne travaillaient pas? Ils venaient vous demander quelque chose?
Ils taxaient, à droite, à gauche.
Hein. Dany.
As-tu un peu de sucre, as-tu un peu de café, as-tu du beurre, des conneries comme ça. Bon, de temps en temps, je disais, il faut faire comme moi, il faut travailler. C'est pas tout de rester couché jusqu'à midi. Il faut aller au boulot le matin, il faut aller aux agences, il faut aller aux intérims. Et non, ils ne comprennent pas. Ah, il faisait la java, là, je sais pas ce qu'il faisait la nuit. Moi, le matin, je partais à 4h.
Travaillez pas, mon père.
Daniel, il allait voler sur une poulaine.
Bernadette et Pascal.
Qu'est-ce qu'il trouvait sur une poulaine?
La déchetterie.
Bah, j'étais heureuse, c'était d'avoir des petits jouets dans les déchetteries, des poupées Barbie, que j'habillais avec des bouts de chiffon. J'étais contente, quoi. Bon, je dis pas que mes parents m'ont pas acheté de... Si, j'avais des jouets de Noël comme tout le monde, mais... Pour moi, ma vie, j'adorais aller dans les bennes, dans les déchetteries avec mon père. C'est la vie qui nous a donné un petit peu. Voilà, il y avait les yaourts périmés qu'on regardait. On voyait bien si au niveau du goût, ils étaient encore bons ou pas bons. Et on avait un stockage de... Je peux même vous dire la marque. Elle m'a marqué. Au jour d'aujourd'hui, je les achète même pas. Ils sont très chers. C'est les bas, les pas qui sont bleus. On en avait deux frigos pleins. Faut dire ce qui est, mais c'est pas de ta faute à toi. Moi, mon père, je l'ai jamais vu travailler.
C'est plutôt le repas du midi ou le repas du soir qui comptait?
On mangeait pas le midi, on mangeait le soir.
Il y a un repas le soir.
Ouais. Ouais. C'est pour ça que moi, au jour de ma vie, aujourd'hui, moi, je peux pas trouver un placard vide. Tous mes placards, je les remplis. Ah, même si j'ai tellement été privée de nourriture qu'aujourd'hui, j'ai même montré à ma mère, hein, j'ai une réserve. Peut-être qu'elle servira à quelque chose ou pas, je sais pas. Mais tant pis, moi, il faut que mon frigo, mon congélateur, même s'il n'y a pas de place, tout est plein. On mangeait quand même. Mais la fin du mois.
Et il y avait quoi?
La fin du mois, c'était le 15, quoi.
Il y avait quoi à boire sur la table?
Passe-moi le cendrier, Damien.
Ben, l'alcool.
Donc, c'était bien là-bas.
Sonia.
Il y avait quand même une pièce pour les gens qui n'avaient pas de machine à laver. Il y avait de la couture le mardi. Des cours de cuisine. Quand même, c'était bien, hein. C'est dommage. Hein.
Qu'est-ce qui vous a fait partir au bout de 2 ans?
Le bruit, quand j'ai vu les gens, tout ça arriver. Quand même, il y a eu beaucoup d'alcool, tout ça aussi. Hein. Moi, je préférais partir. Quoi.
Mais quoi?
On dormait pas. Richard qui criait la nuit qu'on ne dormait pas. Puis c'était pas trop renommé non plus. Hein. Le docteur, il n'osait pas venir.
Au début, ça allait.
Ouais, au début, impeccable. Ça a commencé à dégénérer peut-être 2 ans après.
Les médecins ne voulaient pas venir?
Bah non, la nuit ne montait pas. Il fallait que la police elle monte avec eux. Hein.
Le médecin.
On avait plein de choses, et en particulier, ils avaient la possibilité de passer d'un appartement dans l'autre. Ils faisaient des trous dans les trucs en béton. Non, mais je trouvais ça génial parce que vous étiez en train de faire une visite, et puis on voyait quelqu'un passer. Il était recherché par la police ou qu'il y avait des problèmes. Mais vous voudriez savoir quoi exactement?
Un peu comment ces gens se portaient, quels étaient les problèmes de santé auxquels vous étiez confrontés et comment vous pouviez y faire face.
C'était surtout un problème social. C'était des gens relativement déshérités. C'était vraiment déshérités comme maintenant on a, par exemple, les Méliennes sont moins déshérités que n'étaient ceux-là.
Et il vous appelait souvent?
Alors, c'était le problème des gardes. Donc, on avait des gardes de nuit. À l'époque, je commençais. J'ai le souvenir d'une nuit où, à minuit, vous allez au 4e étage. Il n'y a plus de tuyaux d'eau. Ça coule de partout. Ça a été arraché. Vous arrivez à une porte. Il y a une hache. Hein. C'est pas une cognée, c'est une hache plantée dans la porte. On vous a dit que c'était une vieille dame qui était tombée et qui s'était peut-être fracturé le fémur. Et puis, on vous ouvre la porte, vous voyez 3 types qui sont 2 fois comme moi et la moitié. Donc, ce sont les fils. Et je vois la vieille dame, bon, aucun problème. Je me suis dit, je vais pas ressortir. Mais je suis ressorti tout à fait correctement et sans aucun problème. C'était les petites aventures qu'on avait aux Écamos. J'ai eu au départ un certain nombre de gens, et puis après ils se sont éparpillés. Il y en a un certain nombre qui sont morts, parce que il y avait l'alcoolisme, il y avait un certain nombre de choses. Bon, mais autrement, j'en ai encore quelques-uns, mais pensez aussi qu'il a combien? 25 ans?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors, j'ai un petit avantage, c'est que dans ma clientèle, au début où je me suis installé, j'ai eu beaucoup de petits-enfants. Maintenant, je retrouve les gens qui ont 20-25 ans. Ce que je leur dis toujours, c'est s'ils veulent s'en sortir, il faut quitter Elbeuf. On ne sait pas quitter Elbeuf. Voilà. Ça, c'est un problème très particulier. Tous ceux qui sont partis ont une chance supplémentaire parce qu'ils recommencent une nouvelle vie où ils ne sont pas connus, ils n'ont pas les gens qui sont avec eux et tout. Hein. Mais bon.
L'alcool et la drogue sont des gros problèmes, c'est ça?
Ah, ben ça a toujours été. Donc, ça touche un peu tout le monde. Je ne crois pas que ça ait changé. Si vous voulez, le problème ait été changé par rapport à l'ensemble de la société. Il y avait une partie qui était, on dira, bloquée à l'intérieur des écamos, et puis ils ont essayé actuellement de les répartir, mais c'est le milieu social. C'est quand même un milieu relativement déshérité. Les interdits de séjour de Rouen, ils viennent à Elbeuf. Donc, il y a des choses.
Amitié, ça fait plaisir. Ah, monsieur,
non, mais Dali,
il a posé, ça fait plaisir, respect.
Dalila, elle habite ici? On dit que quand la cité a fermé, quand les gens ont été déménagés...
Ah, ils ont été éparpillés.
Ils ont été éparpillés, puis il y en a qui étaient très mal et qui sont retrouvés à l'hôpital psychiatrique.
Elle a beaucoup contemplé Saint-Étienne.
C'est vrai, je me suis senti dépaysé à Elbeuf.
Paul Fort.
J'étais bien ici, il y avait la nature, il y avait tous les
pourtant,
jours.
Pourtant, c'est à 1,2 km.
Ah ouais, même pour les courses, on avait tout ici. Le camion est monté, radar, la boulangère a monté, il faisait crédit à ma mère, il faisait crédit à tout le monde, le boulanger, il venait le matin, pareil, il faisait crédit. On n'a pas besoin de descendre.
Et ils ont muré les fenêtres, les portes et tout?
Ah ouais, et puis les caves, les fenêtres et le hall d'entrée. Ah ouais, ils ont tout bétonné. Hein.
Qu'est-ce qu'il y avait dans les caves?
Dans les caves, il n'y a rien, il y a juste là-bas, que, dans le Havre, on avait fait un local pour nous. Il y avait des éducateurs qui avaient déjà fait un local pour nous avant, et quand ils sont partis... nous, on l'a repris, puis c'est là que le soir, on dormait, on fumait des joints. Et après, on a été chercher des champignons. Des champignons, ouais. Et du LSD là-dedans. Hein. Et la plupart sont restés comme le frère Papy, schizophrène, Alain le Couteux. Mm. Vous vous rappelez de lui? Il est schizophrène, c'est le talent en plus.
Parce qu'il fumait des champignons cueillis.
Ils avalaient les champignons. Ça, c'était dans les dernières années. Hein. Sinon, j'ai jamais vu de drogue avant ici. Hein. Inconsciemment, ils sont foutus en l'air. Moi, j'ai habité ici jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai jamais été en prison. Il a fallu que je descende à Elbeuf. Et après, j'ai fait que des conneries, que des conneries.
Oh, bon, disons, quand j'ai été viré de là-haut, enfin, pour virer, c'est nous qui sommes partis. Parce que j'ai déménagé 8 fois, toi, alors.
Dany.
La première maison, je m'en suis rappelé après. J'ai habité au 27 rue de Bourtoune. Déjà, j'avais pas d'enfant. Je vivais tout seul avec Sylvie.
Dans quel genre de maison?
Une cuisine et une chambre, c'est tout.
En studio?
Ouais. Il n'y avait pas de toilettes, les toilettes c'était dans la cour.
Et c'était donc une courée?
C'était par tout le monde dans la cour.
D'accord, mais tu te souviens des gens qui habitaient dans cette courée?
Ah ouais, il y avait des gens. Donc ces gens-là sont décédés, c'est toujours pareil. Ouais, après là, j'ai habité au feu rouge, là, quand je t'ai expliqué hier.
C'est là où je suis né.
Dans le privé, c'est un.
Ouais,
le
privé. C'est... Non, non, j'ai...
non ça,
Dormant, c'était HLM.
J'étais dans HLM. Et on a déménagé parce qu'ils devaient détruire.
Donc ils ont détruit la maison, ils vous ont proposé un autre logement pour détruire
non,
la maison.
Ils ont pas proposé d'autres choses.
Ils vous ont vidé du jour au lendemain.
On a cherché un autre logement.
Au début, ils m'avaient mis en expulsion. Voilà. Bon, j'avais trouvé quelqu'un à côté de chez moi, qui m'avait pris mes meubles, tout, puis qui m'a hébergé pendant un moment. Puis je reçois un courrier que c'était pas la peine que je quitte les lieux, je pouvais remettre chez moi. J'ai dit, attends, je suis parti. Maintenant, ils me disent que je suis plus expulsé, pas allez, je revienne à la maison.
Extrait de notre enquête de 1980.
Monsieur, vous trouverez ci-joint copie de la menace d'expulsion qui pèse sur nous, habitants de la cité des Écamos. Nous sommes 30 familles qui habitions aux anciens abattoirs. La municipalité nous a contraints à déménager, c'était en 1974. Aujourd'hui, ça recommence, on veut nous déloger par la force. Si nous ne pouvons payer nos loyers depuis 7 ans, à qui en incombe la responsabilité ? Nous vivons avec 15 francs par jour et par personne. Nous sommes ici depuis 7 ans et voulons y rester pour ne pas tomber entre les mains des propriétaires privés. Cessera-t-on un jour de nous déloger comme des lapins ?
Après les écameaux, donne-nous tout de suite toutes les adresses où tu habitais. Vas-y.
Rue de Bortrude.
Bernadette.
Rue de la République à Elbeuf. Rue d'Orvon. Rue Barthelot. Rue Camille Randoin. Et après ici.
Donc tu as fait 7 fois.
Ah, j'ai oublié rue Sévestrané. De Saint-Louis.
Et pourquoi tu changes ton adresse ?
Pourquoi je change ton adresse ? Parce que les logements ne pèsent pas. Oh. Les luciers ont.
Voilà, franchement, je ne voulais pas le dire.
Oui,
pas le
dire.
La vie est peut-être dure, mais je n'ai pas du ciel à ma porte. Moi. Bon,
parce qu'elle fume trop de cigarettes, donc elle ne peut pas gérer son compte.
Elle non, mais je ne donne pas mes adresses aussi, les noms, pour que les gens me fassent chier.
Non,
c'est un peu ça.
Tout le monde profite d'elle. Elle a trop bon cœur. Alors en fait, chez elle, bon, bah, tout le monde va venir, donc ça va être des factures qui vont monter parce que bah, tout le monde, 3-4 qui se lave ici, c'est un qui vient, un qui repart. Ma mère, elle est comme ça, elle est un peu comme Restaurant du Cœur.
Tu te rappelles, il y avait tout le temps du monde qui venait chez toi ?
Ouais.
Hein ?
Ouais.
C'était le salon où l'on cause.
Bah, les écabeaux, c'était un peu ça.
Un peu tout, oui.
Maintenant, on... non, il n'y a personne qui rentre chez moi.
Il y en a qui venaient manger chez toi ?
Je m'en rappelle.
Tu te rappelles ? Chez Bernadette, le bureau d'aide sociale.
Ah oui. Ah oui, on m'appelait le bureau d'aide sociale, je m'en rappelle. Ah, mon fils qui arrive, Johan, tu te rappelles ? Je l'avais pris tout petit dans les bras.
Ouais, tout petit. T'as pas mal déménagé ? Depuis ?
Ouais.
T'as coursé dans la ville ? Là. Tu vas redéménager ?
Dans la cour des pompiers. Ici, il y a des rats et des souris dans la cave, là. Bah oui.
La décence répond à certaines lois et à certains critères.
Tout ce qui est malsain et nuisible à la santé est insalubre. Cette innocente tautologie pourrait servir de fronton à l'une de nos plus ambitieuses politiques sociales, celle du logement. Mais l'encre et le béton ne coulent pas au même rythme. Dès avant la guerre, tout ou presque avait été dit. Mais rien ou presque rien n'avait été bâti. Il faut attendre l'après-guerre et même le milieu des années 50 pour que la bétonnière rattrape la rotative.
Sur l'agglomération d'Elbeuf, c'est surtout l'habitat privé qui pose davantage de problèmes.
À la CAF.
Petit à petit, les propriétaires prennent conscience qu'ils ne peuvent plus passer, je dirais, au travers des mailles du filet. Parce qu'on a des moyens coercitifs à un moment donné pour leur dire « Stop, ce n'est plus possible. Votre logement ne répond plus à toutes les normes. Il faut revoir ça. » Nous, systématiquement, quand on a un signalement de logement d'un locataire, on fait une visite de logement, on invite le propriétaire. Donc on va au domicile, on fait une visite. 90% des situations, quand même, on est dans la non-décence. En fonction de ce que l'on découvre, soit on interpelle tout de suite la mairie parce qu'il y a potentiellement un péril. Donc là, c'est le maire au titre de sa police qui intervient. Soit on est dans de l'insalubrité. Et là, on envoie directement à l'Agence régionale de la santé qui va faire une enquête par le biais d'un inspecteur. On contacte le propriétaire. Suite à ça, il fait les travaux et c'est très bien. Soit il ne fait pas les travaux et là, il y a des mesures coercitives. Ça évite d'accorder des aides financières pour des logements qui sont repérés. C'est pas la peine non plus d'accorder une aide à l'accès pour des logements pour lesquels on vient de sortir une famille. L'objectif aussi, c'est que les familles, elles trouvent un logement à un moment donné, mais qu'elles y restent un certain temps.
Fais-nous visiter, vas-y, bah, passe-moi.
Vas-y, là-haut, c'est la cuisine. Bon.
Bernadette.
Bon, t'y arrives comme logement.
Ça, c'est le congélateur.
Bah, bien sûr.
Et il y a un code pour l'ouvrir.
Non.
On peut l'ouvrir.
On peut l'ouvrir comme ça.
Il y a des glaces, du pain,
et tout.
Du poulet.
Mais il n'est pas plein, là.
Il n'est pas plein. Et donc, il y a des chambres, là-haut.
Non, c'est trop pourri, j'ai rien fait là-dedans. Putain, ça s'est été assez vite par là. Il y a un gros trou comme ça par terre.
Dans le plancher ?
Ah oui.
Ah oui, d'accord.
C'est pour ça qu'ils ont mis une planche.
Et là, tu pourrais faire une chambre.
Il n'y a pas de prise, il n'y a rien, regarde. Truc pour l'aération, ils l'ont mis là.
Ah oui.
Je vais faire une chambre là-dedans. C'est un vieux logement.
Mais ils sont pareils en face, c'est la même chose que ça.
Pareil, mon plus petit.
Et donc ta chambre, elle est où ?
J'ai fait chambre sale. Moi, je dors là-bas dans le divan, pour l'instant. Après, quand j'aurai un autre, je serai en vie.
Ah oui, c'est pas vivable ici. C'est pas à visiter ici. Hein.
Ici, tu m'as dit, j'ai trouvé ça, c'est,
en rapport
cette
à
maison.
Mon propriétaire.
Dany.
Que j'ai changé de la peinture avant.
Parce que tu travaillais chez lui.
Ouais. au noir.
Donc au noir, dans le bâtiment, enfin...
Ouais, pas toujours. Là, j'ai deux chambres là-haut, une grande salle, cuisine.
Donc qui c'est qui habite ici chez, avec vous
Là, ben, ouais, j'ai ma fille et mon petit-fils.
Sa fille, 17 ans.
Et vos frères, ils viennent des fois
Là, ils vont pas venir, ils sont en prison.
Mais quand ils sortent
Ils viennent de temps en temps nous prendre la tête, après ils repartent.
Et votre père, il nous a dit hier, tu m'as dit, mon fils, il sort mercredi.
Ouais, il sort, Sébastien, il sort mercredi.
Sébastien, il sort mercredi.
Ouais.
Il va venir ici.
C'est moi qui vais le chercher.
Ah bah oui, il va venir voir.
Il vient ici pour les premiers jours, pour la première nuit, je crois, parce qu'il vient avant que je parte en vacances. Je pars en vacances samedi, donc il reste avec moi, après il part.
C'est vous qui allez le chercher en voiture ?
Ouais, à Rouen.
Et pourquoi il vous prend la tête, il n'est pas méchant quand même ?
Non, mais c'est pas qu'ils sont méchants, mais comme ils ont leur délire, ils sont toxicaux, quoi, c'est quoi à dire ? Quand ils sont dans leur délire, ils nous prennent la tête.
Ils sont pas méchants, mais ils sont jaloux.
Ouais, ils sont beaucoup jaloux, en fait.
Et même moi, ils me prennent la tête. Alors, moi, ça me
ils sont souvent jaloux de mon frère, là, qui a un appartement avec ses enfants, et moi. Et c'est tout. Pas ma sœur.
Parce que leur frère, il y arrive, lui travaille, il fait ce qu'il faut pour y arriver. Il n'a pas posé de faire travailler avec lui. Il dit que ça sera pas faisable avec eux. C'est impossible. Que c'est des gamins qui sont nés dans la baraque, ils resteront comme ça. Là, ils sont en cure. Ils sont en cure, mais c'est par obligation. Ils sont en prison, on ne peut pas en faire autrement.
Les deux, ils sont tombés en même temps.
Ouais, les deux. Il y a une journée d'intervalle. Voilà. Il y en a un qui est rentré le 8, l'autre, il est rentré le 9.
Il y en a un qui ressort plus tard. En septembre, octobre.
Et vous lui écrivez ?
Oui, je leur écris, je leur envoie leur argent, je leur envoie des photos, c'est moi qui fais tout.
Et quoi, les photos à la prison ?
Il n'y a pas de remerciements.
Ils vous répondent ?
Non.
Jamais ?
Juste pour me dire... Là, quand ils ont leur argent, j'aurais pris 20 euros dessus pour dire à ça, je vais m'acheter une petite fringue, vu que c'était mon anniversaire. Ils m'ont juste écrit voleuse, tatatitatata. Je leur ai répondu, j'ai dit, je veux plus de nouvelles de vous, vous débrouillez pour votre argent, c'est tout.
Ils débrouillent.
Mais ils savent très bien que, de toute façon, je suis carrément rancunière, donc ils viendront pas me reparler tout de suite. Je suis battue plus d'une fois avec eux, je t'emmènerai pas ma bouche là.
Mais c'est quoi l'argent dans toutes les questions ?
Il y a les RSA.
Les RSA, ils touchent tous les mois une somme et puis on leur envoie. Après, ils font ce qu'ils veulent avec là-bas, je sais pas ce qu'ils font.
Ils la jettent à manger, là-bas, à la prison, ils cantinent.
Eux, ils reçoivent pas sur place le RSA, ils peuvent pas.
Non, c'est interdit là-bas.
Donc on est obligé de leur envoyer, je crois ils ont droit à 3 mois et après ils n'ont plus le droit.
C'est suspendu.
Ouais, voilà.
Et quand ils ressortent, ils pourraient refaire la chose. Ça va, Bastien, avec 2 mois, il sort mercredi, il dit ça va, il est tranquille. Puis lui, il touche pas parce qu'on n'a pas sa carte.
Il a pas de carte de retrait.
Comme ça, il se débrouille avec son frère, avec son argent, ils se débrouillent tous les deux là-bas, comme ils sont en cellule ensemble. Moi, franchement, parler, c'est mes fils. C'est malheureux, je parle comme ça d'eux, mais moi, il y a avec moi, je ne vois même pas en train de parler du tout. Ah non.
Ton gamin, vous les revoyez adultes, on ne reconnaît pas les gens.
Sonia.
Les enfants, ils peuvent nous reconnaître.
Ouais.
Mais dans le sens inverse.
Non, on peut pas.
Moi, j'étais au square, je vais pas demander aux gens à chaque fois.
Vous avez été auquel ?
J'étais en face de ça.
De l'église ?
Oui.
Ah ouais, mais non, c'est pas leur date, là, il pleut, tout ça. Non, faut y aller vers le 6, au 7, ils vont tous ça.
Pourquoi le 6, 7 ?
Ah. RMI, il y a mi-temps à côté.
C'est écrit page combien, ça ?
Ah ouais, j'ai vu que c'était marqué un petit truc comme ça.
Le 6 du mois.
Donc ça a pas changé, quoi.
Ça a pas changé, le 6 du mois.
Ouais.
Les gens sortent.
Voilà. Puis ils vont jeter d'eau.
T'es pas parti chercher les bières, toi, crapuillot.
Tous les habitués du jet d'eau. Et Paul Fort.
Beaucoup qui se sont retrouvés dans la rue. Et puis ils ont bétonné. Ouais, c'est vrai qu'ils ont jeté les gens à la rue comme ça.
Ouais, ceux qui avaient des enfants, ils pouvaient pas les mettre dehors, mais les autres. Ça a été.
Et à cette époque-là, il n'y avait pas des RMI, il n'y avait pas des RSA, il n'y avait rien.
Ouais, c'est vrai.
Moi, j'étais 19 ans incarcéré pour des petits vols, déjà. Je rentrais dans un magasin, je voulais 2-3 bouteilles de Ricard pour les revendre. Moi, j'étais du hashish. Quand je passais au tribunal, mon casier sortait, c'était les écamos, à chaque fois les écamos. Ce qu'on appelle les cas sociaux, j'aime pas ce mot-là, c'est des gens pauvres qu'ils ont mis aux écamos.
Je me rappelle, j'avais 6-7 ans, j'allais avec ma mère, j'avais une gamette de soupe, il lui donnait un bon pour une niche de pain, puis un bon pour, aux pompiers, là. J'ai fait en 72-73, là. Chercher de la soupe et puis une niche de pain avec des bons alimentaires. Un bon alimentaire.
Et ça a duré jusqu'à quel...
Ça s'est arrêté dans les 76-77.
Je crois, effectivement.
Et la Croix-Rouge, ils donnaient des choses aussi.
Ouais, ils donnaient, mais la Croix-Rouge, ils donnaient que des vêtements. Que des vêtements. Ils donnaient pas à manger. Les gens, ce qu'ils voulaient ici, c'est à manger de plus. Hein. Moi, j'ai vu des gens ici ramasser du pissenlit pour le manger. Hein.
Bien sûr.
Et quand même, est-ce que des jeunes comme vous, vous arriviez à trouver quand même un peu de boulot
Bah, difficilement, pas du tout, presque.
Enfin, si je parle pas de mon passé, oui, mais j'ai une licence chariste, mais non, c'est dur.
Comme chariste?
Ouais.
Moi, j'ai travaillé 4 ans dans ma vie, 2 ans en privé, 2 ans en tôle.
Il y a le problème du CV, quand vous faites un CV, plus, que vous avez un trou de 8 ans...
Et des fois, c'est les noms qui plaisent pas.
Le patron, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, pour moins de 8 ans, là, vous avez fait quoi, si vous voulez, hein?
Voilà, Seine-Maritime, c'est ça, hein, deuxième OI de parade du chômage.
C'est ça qui a fait du mal aussi, c'est qu'ils ont fermé beaucoup les boîtes ici. Hein. Il doit y avoir encore des gamins aujourd'hui qui doivent manger du café au lait le soir. J'espère pas, mais j'imagine. Parce que la pauvreté est encore pire qu'avant. Voilà. Depuis qu'ils ont 1000 euros, je crois que les riches sont devenus de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Ah ouais, ça c'est clair. Et puis avec le RMI, en vérité, ils ne nous ont pas aidés. Moi, ils ne m'ont pas aidé avec le RMI. C'est d'assistanat. Aujourd'hui, si je me mets à travailler, je vais payer toutes les... Bon, je vais me mettre dans la merde en travaillant demain. Ah, je vais payer toutes les amendes que je dois à la justice.
À la CAF, dans nos fichiers allocataires, on a effectivement un fort taux hein, de bénéficiaires de prestations sociales. Et on a, dans nos fichiers, à peu près 30% de gens qui ne vivent que des prestations familiales et ou sociales. Voilà, donc, effectivement.
Ouais, quand même pas 30% des allocataires d'Elbeuf qui ne vivent que de...
De l'aglo, on est de cet ordre-là, ouais, ce qui est important. On vit en première ligne, nous, la crise. On a eu, avec la crise, des changements de situation professionnelle très, très, très forts. Et le RSA est une prestation, alors notamment quand vous rentrez dans la logique du RSA activité, c'est très erratique. Vous avez les gens pendant 2 mois, vous l'avez plus, et puis ça revient. Pourquoi? Parce qu'on est en phase d'emploi précaire. Il y a les systèmes de mission intérimaires et tout ça. Et donc, c'est très, très, très lourd et très complexe en gestion.
On s'est vu ce matin, là, on a parlé un peu de ton travail, même pas mal
De
ta carrière professionnelle.
Ah, j'ai toujours été salarié, moi.
Donc, tu as commencé, tu nous disais...
J'ai commencé, j'avais à peine 14 ans.
Dany.
Tout ça, c'est des usines fermées. Tout ça, c'est beaucoup du tissage. Hein.
Sa fille.
Et il nous disait ce matin que vous aviez fait son dossier retraite.
Ah, là, c'est compliqué. Là, c'est carrément compliqué. Je sais pas, moi, ça me prend la tête.
Mais le dossier, quand vous avez fait le dossier de retraite de votre père, vous vous souvenez?
Ah non, c'est pas elle qui a fait. Hein.
Non, mais
c'est ça, moi c'est et mon propriétaire.
Le propriétaire, il en a fait une partie. Après, il a reçu un courrier qu'il fallait que je refasse.
Parce que vous nous avez dit 10 ans Malaisieux, 10 ans Blanc et Blanc, 4 ans Mazurel.
Avant, j'étais à la Roquelaille, j'ai fait 7 ans, 8 ans. Après, j'ai fait des contrats de 2 ans.
Après, et c'était quoi le truc que tu travaillais? Même le patron, il n'avait pas été là.
Ah oui, chez Hervé.
Ouais,
ah
chez ouais. Hervé.
Là, j'ai fait 2 ans.
De bâtiment?
Ouais, voilà.
Bâtiment, peinture. Signer la peinture, c'est la peinture qui m'a escarté les yeux, tout ça.
Vous vous rendez compte, ça fait déjà 35 années de cotisation ou quelque chose comme ça. Donc, ça devrait lui donner une retraite pratiquement à taux plein.
Bah et puis, ouais, sans compter...
Il doit y avoir des papiers qui ont été mal faits.
Bon, j'ai eu quelques arrêts entre deux. J'ai été au chômage, comme tout le monde. Hein.
Oui, mais ça compte.
Tout ça, c'est compté. Hein.
Ça compte dans les droits à la retraite.
Il y a des entreprises que j'ai fait 6 mois, comme la peinture chez Marès, à Renault, à Cléo. Alors, j'en ai fait. J'ai même travaillé à Fontanu avec Bernard Soulen. Là, j'ai fait 4 mois, parce que c'était trop dur. À la fonderie, c'est dur.
Et ton dernier employeur, tu t'en souviens?
Oui, c'est Monsieur Hervé, mais il habite plus ici.
Il habite plus là, lui.
C'est enfin, de la peinture dans les rues de la République.
Il reposait tous les appartements de la rue de la République. Aussi,
et c'est pour ça qu'il n'a plus les yeux.
À cause de la peinture?
Mais je faisais trop de blanc, puis ça m'a...
Ah bon?
Et après, c'est le médecin du travail qui l'a...
Ah là, c'est le médecin du travail qui m'a mis définitif, je crois.
Puis après, il s'est fait opérer, puis ça a été pire.
Alors après, c'est de bonne pierre
en
pire.
Soit ça passe, soit ça passe pas, puis bah, c'est pas possible.
Ça, moi, j'allume pas trop souvent parce que j'ai l'habitude en sombre. Moi, l'escalier, j'y vois même pas, là.
Mais là, ça repère.
Et comment vous faites, alors, pour aider votre père? Comment vous...
Je me prive tout le temps.
Bah, la vaisselle, la lessive, la tout manger. Ça, faire à manger, c'est équipé de tout ça, hein. Ah ouais, ça c'est
après,
quand...
Je fais ses papiers.
Quand les gars sont là, c'est la pagaille, hein.
Parce que la pension que vous avez eue...
Bah, combien je touchais? Je touchais 560 euros par mois de la retraite normale. Et je touchais 460 de complémentaire. Tous les 3 mois, la complémentaire. Ils m'ont supprimé 160 euros sur la complémentaire.
Et là, maintenant, il a 302 euros de retraite.
Ouais,
alors bon. Que ça ne devrait pas être normal, parce que déjà, notre loyer, il est déjà plus cher que la retraite. Donc,
non, mais c'est pas possible qu'il ait fait 300
euros. Bah voilà, mais là, il touche 302 euros de retraite.
Et le loyer, là, il est de 484 euros. Bon, je paye pas 484 euros. Je paye 330 ou 360 euros. Ouais. C'est à peu près le prix de ma retraite.
Donc quand c'est comme ça qu'on ne pouvait pas, on va demander à Saint-Ociel qu'elle nous aide, ou mes frères, des fois, quand ils sont...
Bon, quand mes fils sont là, par moment, ils me donnent un petit peu d'argent.
Moi, je travaille, j'ai des enfants des fois le mercredi, donc je garde l'argent.
Tu veux une bière?
Ah ouais, c'est pas le refus. Ah, elle boit pas, ma fille. Ma fille ne boit pas. Pas d'alcool, pas de cigarette. Elle a son copain, il travaille là pour le moment, il n'est pas là.
Donc quand il reçoit des courriers, c'est vous, vous lui vous faites la lecture des lettres? Ouais.
Bah oui, bien obligé. Comment tu veux que je lise? Voilà la nôtre. Bon, on fait les courses pour le mois, hein, comme ça elle est tranquille.
Alors c'est quoi les dépenses du mois
Les courses, le loyer, après tous les 3 mois l'eau, l'électricité, tout ça.
Déjà pour les courses,
je fais les courses pour le monde.
Les 100 euros de
course. Vous faites
les 100 euros de course.
À chaque fois, j'arrive pas à faire 100 euros de course.
Non, ça fait toujours un peu plus. Alors.
Donc 100 euros de course, ça doit faire le mois.
En réalité, on est moi, ma fille, et puis mon petit-fils.
Et mon copain, souvent.
Ah, puis Morgane.
Je mange souvent chez mes beaux-parents. Donc.
Moi, la nôtre, monsieur.
Juillet 2010, extrait du journal d'enquête. Ce n'est pas un retour sur enquête, c'est une nouvelle enquête. Tant de choses ont changé, tant de gens ont disparu. Beaucoup sont partis. Les trajectoires de ceux qui travaillent divergent de façon beaucoup plus visible des modes de vie de ceux qui sont obligés de s'accrocher aux derniers restes de l'État-providence. En réponse à mes questions, je ne recueille souvent qu'une courte phrase suivie d'un ricanement, d'un silence. Brigitte a beau regarder à nouveau une à une les photos de l'album fatigué qui ne la quitte pas, ses souvenirs restent en morceaux. Elle sait bien qui est qui, mais ne sait plus ce qu'ils sont devenus, et même parfois s'ils sont vivants ou morts. Beaucoup de récits sont très courts et circulaires, mais comment échapper à cette conviction que c'est le sociologue qui recolle les morceaux, donne un surcroît de cohérence et finit par parler à la place d'eux. Retour sur enquête. Ethnographie d'une ville ouvrière. La mémoire en morceaux. Avec Sonia, Dani et sa fille Morgane, Bruno, Bernadette, Pascal, Pierrot, sa femme et sa fille. Merci aux médecins de quartier, à la caisse d'allocation familiale. Merci à Fabien Dehaye, jamais découragé par les portes qui claquent. Prise de son, Étienne Leroy. Mixage, Philippe Bredin. Un documentaire de Jean-François Lahaye, Numa Murard, Jean-Philippe Navarre, pour Sur les docks.